Salut à tous, je m'appelle Sylvain et bienvenue sur Histoire 2, le premier podcast intégralement consacré à Mylène Farmer. Vous pensiez avoir tout lu sur Mylène et vous êtes loin d'avoir tout entendu. Références culturelles, coulisses, production, exploitation, pendant une heure on va vous raconter, décrypter, débattre à juste hauteur d'un album ou d'une tournée de la chanteuse. Et vous le savez, je ne suis pas tout seul pour animer ce podcast, la team est là.
Bonjour.
Salut Bastien, Clément, Ludo et Thibaut. Et juste avant que je vous les présente, on voulait vous remercier pour l'accueil fait aux deux premiers épisodes, de beaux messages, des encouragements et franchement, ça fait plaisir.
Merci à tous.
Très heureux de vos réactions. Merci à tous. Thibaut, t'es toujours avec nous.
Mais toujours, plutôt de focus.
Blogueur sur Thibaut Tour. Tu es également très présent sur Instagram. Mmh. Thibaut Tour et Thibaut avec un D.
Avec
on te retrouve un peu
D.
partout. Tu es également créateur du forum Nobody Knows, le forum partenaire. Bastien est aussi à nos côtés.
Salut à tous.
Tu es journaliste. On t'a notamment vu cette année dans Je t'aime, etc. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Ludovic.
Ludo, comme tu sais, bonjour
Ludo,
à tous.
Exactement. Comme dirait Thibaut, je le dis à chaque fois, mais au clavier et à la direction musicale de cette émission.
Toujours.
Tu es également musicien et chanteur. Et enfin, Clément.
Salut à tous.
Créateur du site de référence sur les interviews de Mylène Farmer, mylène-interviews.c.la. Tu as également participé à pas mal de fanzines et pas mal d'ouvrages sortis sur Mylène Farmer.
Et nous avons Sylvain.
C'est moi. Salut.
Qui est le présentateur du podcast.
C'est ça. Bonsoir à tous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Histoire de MF, Histoire avec un S, et réagir sur le hashtag HDMF. Pensez à vous abonner sur les plateformes.
Vous allez sur l'application Apple, vous vous abonnez au podcast et vous avez le choix, vous avez des étoiles, vous pouvez mettre par exemple
4
voilà.
ou 5.
Voilà. Alors on commence tout de suite, voici Histoire 2 sur 89.
Tu peux monter Histoire 2. Bonsoir.
La révélation scénique, c'est bien comme ça qu'on pourrait résumer le tour 89. Alors Bastien, comme d'habitude, on va faire un petit tour en 89, il se passait quoi?
Et bien même, on va revenir un tout petit peu avant en 88 parce que Mylène Farmer, elle est partout. Elle défend son second album « Ainsi sois-je » et fait le tour des plateaux de télévision. Elle fait aussi beaucoup parler d'elle grâce à ses clips qui sont de véritables super productions de cinéma. Et c'est justement alors qu'elle vient présenter son tout nouveau clip « Pourvu qu'elle soit douce » dans l'émission « Nulle part ailleurs » de Philippe Gildas qu'elle officialise son arrivée sur scène. Nous sommes le 7 octobre 88 sur Canal+.
Est-ce que tu joues toujours sur ta timidité ou tu es toujours aussi timide?
Non, je crois pas qu'on puisse jouer. Je suis introvertie et j'ai ce paradoxe de vouloir être à l'avant-scène. Et je pense que c'est pas réellement un problème.
Mais tu pourras quand même, c'est pas réellement un problème, sauf si tu veux faire vraiment de la scène. Si déjà les télés te torturent, tu vas faire de la scène.
Je vais faire de la scène.
On peut déjà dire quand?
On peut dire que ce sera le Palais des Sports et on peut dire que ce sera en mai 89.
Palais des Sports, grande salle, hein.
J'aurai un gros travail de préparation.
Oui, mais enfin, quand on voit que l'album est depuis 5 mois au top 50, depuis qu'il est sorti, il est au top 50, il y est toujours. Il n'y a pas de raison que le Palais des Sports ne soit pas plein, ça ne fait aucun doute.
C'est donc officiel, après deux albums, une multitude de tubes, Mylène Farmer va enfin rencontrer son public. Le rendez-vous est donc fixé pour le mois de mai 89. Vont suivre donc des mois de préparation pour la chanteuse et va arriver cette fameuse année 89, une année où le monde bascule, comme vous le savez, ce sera la chute du mur de Berlin. En Chine, c'est la révolte étudiante de la place Tiananmen, alors que la même année, le Dalai Lama, lui, reçoit le prix Nobel de la paix. En France, on se lance dans des projets pharaoniques. C'est l'inauguration, vous savez, de la pyramide du Louvre qui va faire polémique. Pharaonique, c'est l'adjectif que l'on utilise pour qualifier les concerts de Mylène Farmer depuis 30 ans. Une réputation qui s'est bâtie dès le premier jour, dès le premier soir, un certain soir de mai 89.
Oh. Merci Bastien, on va passer à la première partie. Avant de se plonger dans le tour 89, on va faire un premier tour de table pour savoir ce que vous avez ressenti, comment vous étiez en 89, Clément.
Ah, moi j'étais petit, j'avais 8 ans, alors je me rappelle quand même de Mylène Farmer à l'époque, hein. On la voyait beaucoup, on voyait notamment l'affiche du concert, je me rappelle vraiment très très bien, mais le concert en lui-même j'ai découvert plus tard, à la moitié des années 90, et ça me paraissait déjà très 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 loin, alors qu'en réalité c'était si proche.
Ludo.
Moi je l'ai découvert dans les années 2000 avec le gros boîtier CD qui déjà nous marquait dans l'époque. Quand j'ai écouté le CD la première fois, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance absolument intemporelle, et c'est un peu après que je me suis mis à la vidéo et que là vraiment j'ai découvert un spectacle très beau.
Thibaut.
Bah, moi, l'épisode 2 sur l'autre, je vous ai dit que j'avais un an, donc littéralement j'étais un fœtus, hein, sur Tour 89. Hein, je suis né un mois après la fin de la tournée. Donc moi, c'est vraiment, je l'ai découvert au début des années 2000 sur Internet. Il m'a énormément marqué, je dirais juste ça.
Bastien.
Oui, bon, moi aussi, j'avais un an, donc j'ai découvert ce concert exprès, tardivement sur YouTube.
Faute d'avoir un DVD.
Et je trouve que c'est un des concerts les plus kiffants à écouter de Mylène Farmer. On va en reparler avec Ludo sur la qualité de la direction musicale. Mais c'est un vrai bijou, en tout cas au son. Je l'écoute, c'est un des lives de Mylène Farmer que j'écoute le plus aujourd'hui.
Pareil pour moi, ouais. Ça reste quelque chose que j'écoute beaucoup plus que les autres lives. Je l'ai découvert forcément un peu tard, parce que pareil que Clément, en 89, j'avais 10 ans. Donc oui, je l'ai pas découvert tout de suite. Je me rappelle beaucoup des promos, de l'interview, de quand elle annonçait qu'elle allait aller sur scène. On voyait bien qu'elle dérangeait un petit peu, et je crois que c'est ce qui m'a déjà plu. Histoire de... Première partie, moi j'ai envie de vous dire que le spectacle commence et je reste avec toi, Bastien.
L'ouverture
des grilles. On parle de spectacle, on parle de mise en scène évidemment, mais on parle aussi du choix des chansons.
Je vais vous parler de la setlist du concert. Donc je rappelle ce qu'est une setlist, c'est tout simplement les chansons qui vont être retenues pour être chantées lors du concert et leur ordre de passage. Voilà. Donc avec deux albums, on se dit qu'une setlist c'est forcément plus facile à appréhender, mais avec seulement deux albums, en fait on note déjà des choix assez radicaux de la part de Mylène Farmer et de Laurent Boutonnat. Tout d'abord, il s'agit j'ai envie de dire du Ainsi soit-je tour, quoi, parce que le premier album de Mylène Farmer, Cendre de lune, sorti en 86, il est un peu sous-représenté par rapport au second. Sont absentes les chansons Au bout de la nuit, Vieux book, Will never die, Chloé ou Greta, alors que l'album Ainsi soit-je, lui, est présent dans son intégralité, ou presque, car il manque les deux pistes qui sont plus des instrumentales, La ronde triste et The Farmer's Conclusion. Même si on aurait adoré voir The Farmer's Conclusion
avec
tout un bestiaire sur scène, c'est sympa, hein.
Toute la ferme.
Alors, quelques particularités aussi dans cette setlist. On retrouve la chanson Puisque, qui n'est pas une chanson qui était sur un album, mais qui était une face B du single Pourvu qu'elle soit douce. On retrouve également, et pas à n'importe quelle place, une reprise d'une chanson de Marie Laforêt qui va clôturer les concerts, Je voudrais tant que tu comprennes. On écoute un extrait.
Je voudrais tant que tu comprennes, puisque notre amour va finir. Que malgré tout, vois-tu, je t'aime. Et que j'ai mal à en mourir.
Marie Laforêt, je me tourne vers Ludo.
Ah bah Marie Laforêt, la fille aux yeux d'or, quoi, quand même. Hein. Marie Laforêt a dit qu'entre elles deux, il y a une évidence. Et elle a voulu retourner l'hommage que Mylène lui a fait en 1989 en reprenant Ainsi soit-je en 2005 dans son tour de chant Marie chante Laforêt. Mais après répétition et tentative même de bossa nova du titre Ainsi soit-je, eh bah elle abandonnera l'idée, dit-elle. Elle se rejetait d'elle-même, je n'ai pas d'explication et je le regrette.
Ainsi soit-je en bossa nova.
Ah oui, ça aurait été quelque chose.
Et puis on peut dire que Mylène, même, elle a été adoubée en quelque sorte par Marie Laforêt, puisqu'elle est sur le plateau télé sur lequel elles se sont retrouvées de mémoire en décembre 87. Marie Laforêt dit, en parlant de Mylène, elle dit je suis fan. Ce qu'on peut dire aussi sur Je voudrais tant que tu comprennes, c'est que à la base la chanson avait été envisagée pour être la face B du 45 tours de Sans Logique, et puis alors on sait pas trop pourquoi, ça s'est pas fait.
Elle a été enregistrée ou pas? On sait pas.
On sait pas. On sait que c'était un projet de face B. Voilà, comme on le sait, c'est Dernier Sourire qui s'est retrouvé en face B du 45 tours. Du coup, Dernier Sourire qui, elle, n'est pas dans le spectacle.
Ils ont repris Je voudrais tant que tu comprennes en finale de spectacle.
Et c'est vraiment une sorte de déclaration où elle s'adresse directement au public. Et là, ce final a vraiment quelque chose d'assez intense.
Enfin, cette tournée, c'est l'occasion pour Mylène Farmer de sortir en single une chanson inédite. Cette chanson, elle est culte pour les fans. Elle s'appelle À quoi je sers. On écoute. À quoi je sers qui sortira en plein milieu de cette tournée, donc qui va être intégré à la setlist au cours de la tournée. Une chanson qui sera accompagnée d'un clip très intéressant, tout un symbole. Mylène Farmer, une valise à la main qui traverse un étang en barque, conduite par une sorte d'étrange gondolier. Un chemin qui l'amène jusqu'à la rencontre des personnages de ses anciens clips. La rivale de Libertine, le torero de Sans Logique, le marionnettiste de Sans Contrefaçon, l'amant de Pourvu qu'elle soit douce, le soldat de Tristana. une sorte de conclusion à ce début de carrière de Mylène Farmer, conclusion qui se vit également sur scène lors de cette première tournée en fait.
Sur le clip de Laurent Boutonnat, quand même chanson, musique de Laurent Boutonnat.
Oui, bien sûr.
Elle a une cinégénie dans ce clip.
Elle est magnifique dans le clip.
Totale. Une cinégénie, c'est-à-dire qu'elle capte vraiment la lumière et que son image passe très bien, ouais, ça accroche.
Et à l'époque, ce qui ressort de ce clip, c'est qu'il est vraiment considéré, il est vraiment perçu comme la fin d'un cycle.
Ah oui.
Et bon, bah, maintenant, avec le recul qu'on a, voilà, on voit qu'effectivement, c'était exactement ça.
Ah, à l'époque, c'est la fin d'une période. À l'époque, c'était plus
ça
que ça.
Ça sonnait comme
c'était...
une fin. Ouais,
et puis, ces notes de guitare sont incroyables.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la chanson, du coup, est sortie, comme tu dis, durant l'été, après la première série de concerts au Palais des Sports en mai.
Il y a eu deux parties dans le Tour 89.
Elle a commencé sa tournée donc, à Saint-Étienne. Elle a fait une date, 11 mai 1989. Premier concert de toute sa vie. Elle a ensuite fait une série de concerts au Palais des Sports de Paris au mois de mai. Et ensuite, une pause. Et puis, la tournée en France, en Belgique et en Suisse a repris à la rentrée avec, du coup, l'ajout d'À quoi je sers. Histoire
de... On parle de chansons, Ludo, et justement, on va parler un peu des musiciens qu'il y a sur scène, la direction musicale même, j'ai envie de dire.
Dans les années 80, et bah, dès le départ, ils décident de s'entourer de la crème, vraiment de la crème, et ils mettent la barre très haute. Alors, on va commencer par le chœur. C'est Yves Sana à la batterie, qui est quand même pas n'importe quel batteur, batteur de Johnny de 85 à 93, c'est quand même pas rien.
Le Johnny.
Notre ouais. Johnny. Christian Podovant à la basse, qui a travaillé avec Véronique Sanson, Michel Berger. Il fait une basse superbe sur Dancing Disco, si vous ne connaissez pas ce titre et cet album de France Gall, allez-y. Il y a Slim Pesin à la guitare, alors lui, il a joué partout dans votre discothèque.
Et puis surtout, Slim Pesin, c'est le fidèle, il est là depuis Maman à tort.
Exactement, il est là depuis Maman
jusqu'à,
à tort.
Même, jusqu'à Monkimi.
Jusqu'à Monkimi, ouais.
On a la présence d'un instrument assez inhabituel dans les concerts de variété, un violoncelle, qu'on entend malheureusement peu, joué par Jean-Philippe Audin. Il a joué entre autres pour Pierre Boulez, Lenny Kravitz, William Scheller. On a Philippe Dray aux percussions. Alors lui, il a été sur les premiers albums du groupe Cassave. Et en 1980, il joue sur un album de Becky Bell. Becky Bell, qu'il retrouvera en 1989 sur le tour de Mylène Farmer, puisqu'elle y est choriste.
Une des deux choristes.
Une des deux choristes avec Carole Frédérix. Wow. Notre Carole Frédérix, connue grâce à Frédérix Goldman Jones, est très présente dans les années 80 grâce à l'exotisme de sa voix et de son accent américain. Et elle a un coffre gospel absolument hallucinant.
Elle est incroyable. Elle donne une touche à ce concert.
Elle
c'est
a participé
incroyable.
Aux trois premiers ou deux premiers albums de Mylène.
Elle est aussi sur l'autre pour Désenchanté.
Si, vous l'avez compris, Thibaut ne pourrait pas participer au cœur des concerts de Mylène Farmer.
Un peu
en
malade.
Ce moment.
On ajoute au casting une malédiction.
Wow.
La malédiction du saxo.
Qu'est-ce que c'est que
oui,
cette
histoire
c'est un instrument indispensable de la variété des années 80. Et John Halliwell, c'est le saxophoniste de Supertramp à l'époque, et bah, il a fait les répétitions pour la première partie de la tournée, Saint-Etienne, les 7 Palais des Sports, mais bah, il ne s'intégrait pas dans le groupe. Alors ils l'ont remplacé en catastrophe quelques jours avant la première seulement par Patrick Bourgoin, qui jouera aussi de la flûte sur les concerts.
Donc ils ont dit au mec de Supertramp, mec,
c'est voilà. Ce que j'étais en train de penser, c'est ça.
On ne sait pas s'il est parti de lui-même ou pas. Hein.
D'accord.
Et alors pourquoi je vous parle de malédiction du saxo ? Et bien parce que le poste finira par être supprimé sur la deuxième partie de la tournée. On n'aura jamais de saxo ni de flûte.
D'accord, c'est pour ça que ça ne me parlait pas.
Mais est-ce que ça vous dit d'écouter un extrait ?
Ah oui,
ouais.
On part au Palais des Sports. Patrick Bourgoin joue sur Libertine.
Et oui.
Première fois que j'entends ça.
Il est crédité dans le programme puisque le programme avait été fait en amont. Toutes ces parties de solo, voilà, elles n'ont pas été reprises sur la tournée. Donc, au Palais des Sports, il y avait des parties de saxo sur Maman à tort, sur Pourvu qu'elle soit douce, etc.
D'accord.
On ne les a pas entendues.
Enfin, pour chapeauter ce beau monde, au clavier et à la direction musicale,
Ludovic.
Non.
Déjà là.
J'aurais bien aimé. Bruno Fontaine, bah, c'est un gros chantier qui attend Laurent Boutonnat et Bruno Fontaine, justement, parce qu'il s'est décidé très tôt d'avoir recours à des programmations en live, c'est-à-dire de diffuser des sons préenregistrés. Et dans la France de 89, bah, on est au tout début de cette technique qui, à l'époque, est super compliqué, et alors que c'est devenu la norme aujourd'hui.
D'accord. Et à l'époque, c'était quand même assimilé aussi à du playback.
Exactement, ouais. Alors que ça n'en est pas du tout.
Alors que ça n'a rien à voir.
Ouais. Oui. Et ça leur a demandé 6 mois de travail pour répartir ce que les musiciens allaient jouer, donc en live, sur scène, et le choix des sons et des samples qui seront diffusés en même temps. Par exemple, les...
Ah
Voilà, ça c'est de la programmation.
Ouais.
Les sons d'ambiance, même la flûte de Tristana, certaines nappes de clavier, on appelle ça les bandes additionnelles. Et Laurent Boutonnat voulait qu'on retrouve sur scène ce qu'on entend sur le disque. Et donc, bah, s'ils avaient fait sans programmation, il aurait fallu au moins plus de 5 claviers, plus de musiciens.
C'était ingérable, et... ça aurait été ingérable.
Ouais, parce que la production des albums est beaucoup trop riche. Et donc là, à l'époque, c'est une vraie prouesse, c'est un vrai défi. C'est très en avance et déjà ambitieux. Histoire
de... Des histoires toujours, justement, Thibaut, parce que la mise en scène, c'est quoi ? C'est une histoire un peu qu'on raconte.
Exactement, oui. Mais avant de parler du spectacle, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur l'affiche du spectacle, qui est visuellement très forte et qui annonce d'emblée la couleur de ce qui nous attend. Pour ceux qui ne l'ont pas en tête, il faut s'imaginer la crinière rousse et flamboyante de Mylène qui surgit d'une brume épaisse. Elle est habillée d'une longue robe noire et elle est en train d'ouvrir de lourdes grilles qui sont... J'imagine la porte d'entrée de son monde, de son univers. Je sais pas ce que vous pensez de ce visuel, moi, que je trouve magnifique.
Un des plus forts, vraiment.
Très fort,
très,
oui.
Très, très fort, parce qu'en plus, j'imagine, parce que moi, je n'ai pas vu le concert en vrai, mais quand on arrivait dans la salle, on voyait aussi ces grilles.
Ouais.
Et donc, déjà, en voyant l'affiche et en arrivant dans la salle, on était autant
dans le
concert,
ouais,
il y avait une cohérence, et ça devait être déjà, rien que ça, c'est déjà puissant.
Alors, le risque qu'il pouvait y avoir avec une affiche comme ça, c'est un peu que ça fasse grand guignol, parce que soit c'est gothique, non, mais soit c'est gothique, c'est soit c'est un peu.
Oui, parce que Mylène Farmer et Laurent Boutonnat étaient extrêmement attendus au tournant avec cette première scène. Elle n'avait jamais donné de concert. Alors l'année 89, c'est le moment pour le duo Farmer-Boutonnat de faire ses preuves sur scène. On peut préciser qu'ils n'ont pas travaillé qu'à deux sur la mise en scène de ce spectacle. Mmh. Ils ont travaillé avec Gilles Laurent. Alors Clément, tu peux nous en dire un peu plus
sur
Gilles Laurent ?
Ouais, c'est ça, Gilles Laurent, bah, c'est un scénariste. Donc il est intervenu dans l'équipe, notamment avec le clip de Son Logique. Il a co-scénarisé le clip de Son Logique et comme le courant est bien passé, voilà, il a travaillé à la construction du spectacle et il est resté travailler avec Laurent Boutonnat également pour finaliser le scénario de Giorgino.
Et avec leur tout nouveau producteur Thierry Suc, ils voient les choses en grand. Ils investissent le Palais des Sports pendant 7 soirs avec un show qui, pour l'époque, est grandiose. Mylène Farmer est accompagnée sur scène par 6 musiciens, 2 choristes et d'une troupe de 8 danseurs. Tout ça pour la modique somme de 150 francs, soit environ 35 euros. Les temps ont bien changé.
Les temps ont changé.
Mais à l'époque, ça devait déjà être très
cher. Très cher par rapport au coût de la vie, déjà, je pense.
Pendant sa promo, Mylène va le répéter à de nombreuses reprises que le spectacle qu'elle emmène en tournée, c'est celui qui a été présenté à Paris, parce qu'à l'époque, ça, vraiment, ça n'allait pas de soi.
Ah, dans l'époque, c'est absolument exceptionnel.
Tu présentais ton show à Paris, et après en
une
Provence,
version allégée.
Une version allégée, sans décor, sans rien.
Ce n'est plus un concert, c'est vraiment un spectacle. En 79, Kate Bush avait déjà fait ça, et elle a influencé pas mal de monde.
Et ce que disait Bertrand Lepage, le manager de Mylène à l'époque, c'est que avec ce spectacle qu'elle présentait, Mylène reprenait la place qu'avaient laissée vacante Sylvie Vartan et Dalida.
On parlait des billets de spectacle.
Ils étaient beaux en plus, on
et
voyait l'affiche dessus.
C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y avait le visuel de l'affiche et en exergue, l'horloge, ce texte de Baudelaire que Mylène avait mis en musique sur l'album Ainsi soit je, où il y avait écrit « Le jour décroît, la nuit augmente,
souviens-toi ».
Et c'est important de le souligner parce que en plus d'être la chanson d'ouverture de l'album qu'elle défend sur scène et du concert, c'est vraiment ce qui sert de fil conducteur à la mise en scène. Le spectacle étant construit autour de cette notion du temps qui passe et de la vie qui défile. Mylène expliquait ça au micro d'Isabelle Quenin sur France Inter en décembre 1989.
La façon dont on a envisagé cette scène, c'était très important que de finalement réécrire une histoire avec déjà des petites histoires. On a essayé de faire évoluer un personnage qui est le mien, de faire évoluer un personnage dans la vie. Donc ça commence par l'horloge et puis à plus grandir, etc. etc. Comme on aurait pu envisager la construction d'un scénario finalement.
On commence par l'horloge et la première chanson après l'horloge c'est Plus grandir. Et puis on a Sans logique et puis on a Maman a tort. Donc on est encore dans quelque chose de très enfantin. Et puis vient Déshabillez-moi et là hop la femme
là,
arrive et on va avoir des pouvoirs qu'elle soit douce, des libertines derrière. Voilà.
Oui, mais c'est vrai, je n'avais pas noté tout ça, c'est vrai, c'est très juste.
Cette notion du temps qui passe, elle est renforcée par ce décor. Alors, de pierres tombales ou de menhirs, on ne sait pas trop, et qui, à l'inverse de nous, pauvres mortels, ne subissent pas ou très peu les méfaits du temps qui passe. On peut parler un peu de cette entrée en scène qui est, je trouve personnellement, incroyable.
Ouais,
on est dans du Tim Burton.
Ouais, un peu, ouais.
Je connais mal, donc
ça me parle pas. Mais
elle est très très simple, parce que pour ceux qui ne le voient pas, on va un peu la décrire vite fait. Donc on est accueilli dans cette salle avec des grilles. Il y a un moine qui arrive, qui ouvre le portail avec ses clés qui grincent comme ça.
Bruit.
et puis la chanson L'horloge commence. Tout est noir. Et puis là, ouais, faisceau de lumière qui arrive, et Mylène Farmer qui apparaît.
À contre-jour. Moi j'adore les entrées en scène apparition comme ça. Elle est pas là, la seconde d'après elle est là, voilà. C'est ce que je préfère et celle-ci elle est super bien amenée.
Horloge de sinistre effrayante, impassible dont le doigt nous menace et nous dit souviens-toi. Les vibrantes de l'heure dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible.
Il suffit de peu pour faire quelque chose de bien. Et ça c'est très très fort, c'est très marquant. Beau, ouais.
Donc ce moine qui ouvre les grilles du spectacle de l'univers, du concert, la totale. Hein. Et qui les referme.
À la fin, il revient. Fin, voilà.
Et Mylène qui redisparaît.
De la même façon, elle remonte, même façon, elle reprend la même position aux démarches, elle salue.
À contre-jour. Ouais.
Thibaut, tu vas aussi nous parler des costumes.
On doit les costumes à Thierry Mugler, hein, que la chanteuse a côtoyé au Cours Florent au début des années 80. Alors, pour l'anecdote, le couturier avait confié en interview qu'il a mis en scène la chanteuse au Cours Florent dans une adaptation du Père Noël est une ordure, où Mylène jouait le rôle de Zézette.
Wow. Zézette, pour ex. Mais on imagine, c'est avec la feuille de sécu. Quoi, ça
c'était avant qu'elle se lance dans la chanson, mais ils sont restés en contact. Et en 1989, il lui réalise les tenues du spectacle. Ce qui est amusant de noter, c'est qu'à l'époque, on reprochait pas mal à Mylène Farmer de tout le temps se déshabiller dans ses clips. Et c'est probablement le spectacle où elle est le plus habillée, le plus couverte.
Elle est très hivernale même.
Beaucoup de manteaux.
Oui.
Moi, celle que je trouve la plus iconique, hein, c'est la réinterprétation du look du clip de Libertine, hein, qu'elle porte sur le tube final du spectacle. Elle y porte une chemise blanche ample avec un pantalon noir près du corps et des hautes cuissards. Donc
cuissards,
rouge.
Magnifique.
On est dans le clip. Hein. Le clip est sur scène.
Complètement.
Super bonne transposition.
On a le retour de Sophie Tellier en rivale parce qu'elle est danseuse.
C'est la rivale du clip. Ils refont la scène du duel au pistolet.
Exactement.
Sur scène.
Au début d'ailleurs, au début de la chanson.
Et on est sur une version étendue de Libertine complètement
folle. Ah non, mais là,
folle.
C'est étendue, là, c'est Alex.
C'est vraiment, pour l'époque, ils ont misé sur le gros tube, le premier tube qui l'a fait connaître, et c'était vraiment l'apothéose.
On peut voir sur la vidéo, sur le film, que c'est la folie. Hein,
ah oui, c'est la folie.
Hein.
Il y a de la pyrotechnie, en plus.
Ouais,
pyrotechnie.
Parce que les danseurs arrivent avec des chandeliers,
oui,
un peu.
Sophie Tellier, la rivale, évidemment, n'a pas la même tenue que les autres danseurs. Elle a son personnage à elle. Enfin, moi, je trouve ça énorme. La scène, elle est énorme.
Sophie Tellier, qui à l'époque voulait se diriger vers la comédie, là, il y a un vrai jeu de comédie. Ouais. Et elle le fait, mais super bien, autant que dans le clip où on sent qu'elle est dans le personnage. Et on peut le dire aussi, Sophie Tellier, on l'adore.
Ah ouais,
franchement,
Sophie, on vous adore. Au niveau des costumes, ce qu'il faut noter aussi, c'est que carrément chaque chanson a son costume. Alors il y a quelques chansons où elle va ajouter ou enlever un élément.
Là, on peut citer un exemple qui fait écho à ça. Hein. Il y a la robe qu'elle porte sur la chanson Puisque, qui est une réplique d'un modèle de la collection Les Infernales, hein, de la saison automne-hiver 88 de Thierry Mugler. Qui donc est une robe longue sur Puisque et qui sur la chanson suivante, pourvu qu'elle soit douce, avec un jeu de fente en forme d'éclair amovible, dévoile une autre tenue qui est un jeu de transparence avec du nylon et des revers colorés en satin. Et elle l'enlève la tenue et ça devient une autre
tenue. Ça se transforme,
voilà.
Non, mais c'est super.
Elle le fait
bien,
en direct.
À vue comme ça du public.
On remercie Stéphane qui nous a aidés.
Merci Stéphane.
Sur les costumes. Hein. On vous invite à aller faire un tour sur son compte Instagram lmmf.mode où il décortique les tenues de la chanteuse depuis ses débuts.
C'est
génial, passionnant.
Histoire de.
Alors, on va pas s'arrêter sur chaque chanson de l'album, évidemment. Je vais vous demander à tous un moment phare du spectacle. On va commencer par Bastien, tiens.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai choisi « Sans logique ».
Je tiens à préciser que Bastien vient de faire la choré, il a jeté son micro au sol.
Il y a un effet immédiat de cette chanson sur nous et sur les fans. C'est un vrai tube fan qui est un peu oublié. Et pour moi, c'est là où le concert démarre vraiment. On a eu l'entrée, on a eu plus grandir certes, mais là c'est bon, on rentre dans le show avec Sans logique. Tous les danseurs sont arrivés sur scène. Il y a une chorégraphie terrible. Et j'ai aussi choisi ce moment parce que c'est quand même un des titres, je crois, les plus attendus de tous les fans sur scène depuis 30 ans. Bon, Ludo fait des petits noms, mais...
Oui, mais les autres, oui.
on s'en fout.
Voilà, voilà.
Comme ils sont avec
Écoutez,
moi.
On a fêté cette année les 30 ans du titre et c'était dingue sur les réseaux sociaux, les forums, l'unanimité quand même autour de ce titre. Ah ouais. Tous les, c'est vraiment, je crois, le titre le plus attendu par les fans sur scène. Donc voilà, franchement, il n'y a aucun doute, sans logique, le
les
stade est par terre. Quoi.
Sans logique, ce qui est génial, c'est l'impeccable coordination des danseurs qu'a fait Sophie Tellier. Et parce que c'est parfait, et on voit qu'il y a un travail du corps de ballet. Tout le monde.
Exactement.
C'est au cordeau. Ouais.
Ils sont tous uniformes, ils mettent bien en valeur Mylène Farmer. Et ça fait partie aussi de la cohérence, autant du morceau sur scène que du concert. Et c'est super beau sur ce titre-là. C'est vraiment parfait.
Et on sent un effet troupe, je trouve, sur cette chanson. Ouais.
Tu parles de Sophie Tellier. On rappelle que c'est Mylène Farmer qui conçoit les chorégraphies du spectacle et qu'elle apprend la chorégraphie à Sophie Tellier, qui est, elle, comme tu dis, la coordinatrice, qui, elle, ensuite l'apprend aux danseurs pendant ce temps, Mylène répète avec les musiciens.
Ouais.
Elle a
ouais,
donc
ouais,
un énorme rôle dans voilà. la préparation. Ouais. Bah, Thibaut, on reste avec toi. C'est quoi ton moment phare?
Alors, moi, j'ai choisi Maman à tort. Alors, c'est pas une de mes chansons favorites, mais j'ai choisi parce que c'est un moment qui est vraiment atypique dans ce spectacle, qu'on peut imaginer très sombre, mais qui n'est au final pas si sombre que ça dans sa globalité. Ce moment de Maman à tort, il est juste hyper fun.
Mais oui,
en fait,
c'est du jeu
avec,
très léger. Ouais.
Avec
ouais.
cette introduction de Carole Frédérics, la choriste, du coup, qui.
Puis tout y est absurde, elle a une énorme robe.
C'est absurde, voilà.
Mylène sort de la robe.
Elle est habillée en nounou, on dirait qu'elle sort d'autant en emporte le vent. Ouais.
Puis il y a un côté, chez Carole Frédérics, c'est un côté opéra, il y a un lyrisme là-dedans, qui est de personnage d'opéra, vraiment.
Et après, elle joue au milieu de la chanson, elles ont un échange en disant: je suis ta mère, donc tu es ma fille. Mais non, je suis pas ta fille, tu n'es pas ma mère.
Et tu n'es pas ma mère.
Il y a une vraie adaptation de la chanson.
C'est réadapté. La basse, bon, tout le long du concert, la basse est incroyable, mais là, on la sent bien.
Ouais.
Et franchement, c'est ça. Le titre est complètement réorchestré pour la scène. C'est incroyable.
Ce genre de moment fun, au final, je ne vais pas dire que les concerts de Mylène Farmer ne sont pas fun, bien au contraire, mais de moments vraiment décalés.
D'amusement joyeux.
Voilà,
ouais.
On ne l'a quasiment pas retrouvé sur scène après. Quoi.
C'est rare qu'elle joue avec les gens qui l'accompagnent. C'est surtout ça.
Oui, surtout.
Et
c'est
là,
ça.
Elle joue vraiment. Enfin, c'est peut-être un peu absurde de dire ça, mais c'est un peu son premier duo à Mylène Farmer, c'est la première fois qu'on entend une autre voix jouer avec elle.
C'est un vrai moment fun, comme la chanson qui suit, Déshabillez-moi, je crois que c'est ton moment préféré, Sylvain.
Ouais, c'est un de mes moments préférés, parce que je trouve qu'elle se lâche, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez énorme dans cette chanson sur scène.
Déshabillez-moi.
La chanson, c'est donc une reprise de Juliette Gréco qu'elle avait faite sur l'album Ainsi sois-je, évidemment. C'était une idée jetée en l'air, hein, a priori, comme ça. Et ils se sont dit, tiens, on va la réécrire avec Laurent. Donc, ils ont réussi. Et je trouve que rhabiller la chanson comme ça, la faire découvrir à un nouveau public, j'ai trouvé ça énorme. Puis alors, cette tenue, hein, totalement SM,
elle a une camisole en cuir. On voit la texte. Chanter Déshabillez-moi en camisole, c'est quand même top.
On la voit en vidéo comme ça, mais sur scène, elle est toute seule en camisole. Elle a juste les petites mains qui dépassent. Et puis alors, moi, il y a un truc, hein. Elle a une voix sur cette chanson.
Ouais.
Je trouve que c'est...
Elle passe par tous les registres.
Et je parlais de Tim Burton tout à l'heure. Là aussi, cette tenue, moi, elle me fait penser un peu à Michelle Pfeiffer dans Batman 2. Là,
c'est exactement ça, en Catwoman.
Un peu. Voilà. Donc le film sortira plus tard, parce que c'est le premier Batman en 89 qui sort.
Ouais.
Et donc dans Batman 2, il y a Michelle Pfeiffer qui a une espèce de tenue de cuir comme ça pour Catwoman. Et voilà, ça me fait penser
Bastien
un peu à ça.
Bastien nous dévoile ses fantasmes, là.
Alors Ludo, c'est quoi ton moment phare à toi?
Ah bah moi, c'est sans contrefaçon.
Batterie.
Mais ça nous manque la batterie dans les concerts, mais ils sont où les solos de batterie? C'est génial. Vous entendez la ferveur quand même.
Il y a beaucoup de témoignages de l'époque qui disent que c'est à ce moment-là que c'est la folie totale dans les salles.
Elle est au milieu à peu près du spectacle. Hein.
Dans le film, je pense qu'elle est super bien retranscrite. Il y a une vraie rythmique, un vrai bon montage. Au début, elle fait une petite chorégraphie et surtout, c'est un vrai travail de troupe. Elle va chercher les danseurs. Ouais. Focalisez-vous sur les chorégraphies, mais c'est génial. Quoi. Tout le monde s'amuse. Mmh. Et c'est le seul moment dans le concert où... Elle est avec le public, elle dit au public de chanter avec elle.
Cette veste réversible qui passe d'un gris uni à un total look caro qui fait écho à la tenue que Mylène portait lors de la promotion télévisée de la chanson.
C'est excellent parce qu'elle retourne sa veste et ça va dans le sens de la chanson où elle devient un garçon sans contrefaçon.
Exactement.
Formidable. C'est subtil.
Et tous les danseurs sont habillés avec cette tenue, ils ont tous une tenue à carreaux. Bah, on dirait un peu des pantins hein, pour faire écho au clip.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Qu'on est là-dedans.
Et Pinocchio,
puis
de... enfin,
ça bon. Reste un moment, mais d'un punch absolu. C'est super dynamique. Et vraiment, le tableau, il est aussi efficace que sobre. Mm-hmm. On a vraiment plusieurs volumes. Et plus ça avance, plus c'est fort. Quoi. Et c'est impeccable. Bravo. C'est génial.
Clément, ça va être quoi, toi, ton moment phare? Je crois que j'aurais pu le choisir aussi. Donc,
ah bon, bah, écoute, ouais. Tu vas me dire. Moi, j'ai choisi Tristana. Parce que c'est un très beau tableau déjà visuellement, un peu la nuit qui tombe, hein. Il y a la lune qui apparaît en fond de scène, il y a la fumée progressivement
qui rappelle la pochette un peu du avec le loup,
exactement, du maxi.
Ouais, t'as raison, bah, tu vois, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai,
j'avais pas vu
ouais,
ça,
ouais. T'as tout à fait raison.
Et comme disait Bastien, on voit la lune qui est projetée, on appelle ça la projection panier, et en fait c'est des grosses diapos qu'on projetait sur
ouais,
la scène,
pas d'écran, hein.
Parce que
non,
voilà, j'allais le dire pour ceux qui nous écoutent qui sont plus jeunes, bah voilà, il y a pas d'écran, hein. il y avait rien du tout sur scène, c'était vraiment que du décor, et là donc les diapos ont pu faire office d'eux.
Exactement.
Et ça habille complètement la scène.
Il n'y en a pas que sur cette chanson, il y en a sur Déshabillez-moi, ah bon, sur Jardin de Vienne.
Sur Jardin de Vienne, il y avait une espèce de cimetière, non ?
Il y a une ouais. croix géante,
une
ouais,
croix
derrière
géante,
les choristes.
Ouais.
Et puis, Tristana, on n'est pas dans une reproduction du clip. Ça évoque plus ou moins la même ambiance,
ouais.
Mais il n'y a pas la sorcière, il n'y a pas de moine, il n'y a pas je sais pas quoi. On est dans une ambiance jumelle, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même histoire, ça nous raconte une autre histoire. Et puis, ce que j'aime aussi dans ce très beau tableau, c'est la sortie de scène que je trouve très mélancolique, où voilà, t'as deux soldats qui viennent chercher Mylène, qui l'accompagnent sortir de scène, alors que la musique continue, c'est les choristes qui se chargent de finir la chanson, et c'est super beau.
Pour cette deuxième partie, on avait envie de vous replonger dans l'ambiance du Tour 89. Des souvenirs de coulisses du Tour 89, de la presse, pas forcément tendre avec Mylène, mais aussi vous qui étiez dans la salle en 89, de la première à Saint-Etienne ou encore au Palais des Sports à Paris. Bastien, on a lancé un appel à témoins pour une rubrique qu'on pourrait presque appeler « Les auditeurs ont la parole ».
Bah c'est ça, c'est même comme ça que j'ai voulu l'appeler. Jingle. Et bienvenue sur RMC. Les auditeurs ont la parole parce que les auditeurs ont toujours raison, comme dirait Jean-Jacques Bourdin. On a fait un petit appel à vous sur les réseaux sociaux et je vais vous remercier parce qu'on a reçu énormément, mais alors énormément,
ouais, c'est génial.
Surtout des témoignages d'une qualité, mais très grande, extrêmement détaillée. On a même quasiment des analyses poussées des concerts. Franchement, merci beaucoup. Donc, petite sélection de vos témoignages. Et on commence par Franck qui était au Palais des Sports en mai 89, donc il assistait parmi les tout premiers concerts à Paris.
Wow.
Et pour lui, ce qu'il retient avant tout, c'était la révélation qu'était Mylène Farmer.
Mylène Farmer, c'est mon tout premier concert au Palais des Sports à Paris. Je me rappelle qu'il faisait très très chaud, les gens étaient surexcités l'idée de la voir sur scène. Il y avait uniquement elle sur scène qui envahissait tout l'espace. Et là, on s'est vite rendu compte qu'elle savait tenir une scène toute seule et que c'était loin d'être une étoile filante.
Mylène Farmer, véritable révélation sur scène, c'est le souvenir de Franck, c'est ce que se souvient aussi Jean-Marie qui nous a écrit sur notre page Facebook, ce charisme qu'elle avait sur son public, cette proximité, je ne l'oublie toujours pas, elle communiait avec nous avec tant de simplicité, jamais rien vu de pareil, inoubliable, spectaculaire, nous raconte Laurence également sur Facebook. Le public rencontre Mylène Farmer, mais les fans se rencontrent entre eux également et se découvrent.
Il ne faut pas oublier, juste pour l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien, les fans ne se connaissaient pas. Voilà. Je le dis pour les plus jeunes qui nous écoutent, Facebook et compagnie, ça n'existait pas.
Il n'y avait pas de communauté
de forum,
de fans,
rien. Ouais.
La rencontre des autres fans, c'est ce qui a marqué également Manuel. Il était à Metz le 25 novembre. Écoutez-le.
Quand je vais à ce concert, j'ai 12 ans et demi. Et en fait, le vrai choc pour moi, il est dans la salle, il est dans ce public nombreux, surtout beaucoup plus âgé que moi, avec des personnes adultes, des ados, des gens survoltés, des gens qui sautent, qui crient, Mylène, qui l'attendent. Et je suis complètement spectateur de ça et je me rends compte que, bien sûr, je ne suis pas le seul à l'aimer. Mais au-delà de ça, manifestement, je ne suis pas le seul non plus à la comprendre et à ressentir autant de ferveur pour cette femme.
Je ne suis pas le seul à l'aimer.
Ouais, c'est beau.
C'est vrai que tu te rends compte à ce moment-là que...
C'était un choc, ouais, un choc. avec la réalité finalement.
Les fans se rencontrent entre eux.
Et comme vous l'avez entendu, Manuel, il y va alors qu'il n'est qu'un enfant. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous ont écrit, comme Alexandre qui était à Liévin le lendemain, le 26 novembre.
Oui, donc moi je suis allé au concert de Mylène Farmer en 1989, j'avais 11 ans. Je n'étais pas très fan en y allant, j'y suis allé un peu par hasard et j'avoue que ça a été un événement qui a été extrêmement perturbant pour moi. Un concert qui était complètement incroyable. Les gens sortant de la salle étaient assis par terre, pleuraient. Il y avait quelque chose de très perturbant, assez violent dans la réaction des gens. Et je sais qu'à partir de cette date, je suis devenu complètement fan de Mylène et que même mes parents ont trouvé un changement avant et après ce concert. Et c'était quelque chose d'incroyable que je n'ai jamais revécu par la suite.
Il emploie des mots forts quand même.
C'est mignon ce qu'il raconte.
Ouais, quoi. C'est génial. Vraiment, ouais, avant, après. Quoi.
Oui, puis c'est là où on voit le bouleversement que ça a pu être.
On dit souvent que les concerts de Mylène Farmer sont comparables à des messes. Mais et oui. Pour le coup, là, c'est...
On voit d'où ça vient, ouais.
Une épiphanie, presque. Wow.
C'est un peu comme sa réaction à Mylène Farmer aussi, c'est-à-dire qu'à toute rencontre extraordinaire, il y a une émotion extraordinaire.
Oui. Alexandre raconte qu'il n'est plus jamais le même. C'est peut-être aussi le cas de Émilie, qui a assisté au concert à Annecy le 14 octobre. Elle était accompagnée de ses parents.
Alors, le Tour 89, ben j'ai 8 ans, et puis j'en ai pris plein les yeux. J'en garde un souvenir merveilleux. Même mes parents, plutôt Floyd que Farmer, avaient apprécié le concert. Et je pense que c'est vraiment le début de la longue histoire d'amour qui existe entre Mylène et ses fans.
Oui, donc longue histoire d'amour avec les fans. Je me souviens que les gens pleuraient, hurlaient pour certains. C'était assez choquant de voir Mylène disparaître après ces deux heures de pure folie. Se souvient Greg qui, lui, était à Bruxelles. Céline nous raconte, elle, comment à Mulhouse, elle est allée retrouver Mylène Farmer à son hôtel pour avoir un autographe. Je suis restée sans voix, les yeux écarquillés, le cœur battant la chamade.
Formidable.
Un nouveau témoignage du lien.
Ouais, c'est génial.
Un nouveau témoignage du lien qui lie la chanteuse à son public. Un lien que Michel, qui assistait au concert de Liévin, raconte très bien également.
Je n'ai depuis jamais plus ressenti en concert une émotion d'une telle intensité. Ce spectacle a définitivement scellé mon admiration et mon respect pour cette femme qui a forgé adolescent ma culture musicale et littéraire et mon goût pour l'esthétique sombre et bizarre qui subsiste encore aujourd'hui. Depuis, j'ai changé, mes préférences musicales ont évolué, mais ce concert du 26 novembre 89 continuera toujours à faire vivre cette part de moi.
C'est magnifique, hein, tous ces témoignages qu'on a eus. Franchement, merci à tous.
Hein.
Et je vous dis, on a fait une petite sélection. Vraiment, c'est très très beau tout ce que vous
bravo,
nous avez écrit.
On va mettre ça
bravo.
Sur le site, bravo, sur histoire2mf.com. Bastien, on reste avec toi pour aller faire un tour du côté de la presse. Je le disais en intro, elle n'a pas forcément été très tendre avec Mylène pour sa première scène.
Ah non, mais attendez, ben, Mylène Farmer et les journalistes, c'est toute une histoire. Hein, voilà.
aïe.
Et vous allez voir effectivement que dès 1989, on a posé les bases d'une relation qui sera assez tumultueuse pour de nombreuses années.
Oh.
On le sait donc, elle est attendue au tournant par les critiques qui découvrent le spectacle donc en mai au Palais des Sports. Le journal François, lui, il est conquis. Il titre « Mylène Farmer, une vraie professionnelle », soulignant un show rythmé et calibré au millimètre, le journaliste est époustouflé par l'entrée en scène et écrit ainsi « Le décor est planté, le light show pour credo néo-sadien peut commencer ». Alors si vous avez un décodeur pour credo néo-sadien,
je prends.
On l'a comparé beaucoup au Marquis de Sade à l'époque.
Oui.
Il y en a par contre que le côté chaud ne chauffe pas du tout. Hein. Comme le journaliste du Parisien Alain Morel qui titre « Mylène Farmer, toc 50
wow. ».
Grosse ficelle. Hein. Et qui paraît regretter assister à un clip phénoménal mixant tous les clichés venus d'outre-Atlantique, épicés d'une pseudo-culture locale qui confond le spectaculaire et le spectre oculaire. Même constat pour le journal Le Figaro, qui préférait voir la chanteuse se produire sur des scènes à dimension humaine, n'en déplaise à la mégalomanie de son pygmalion Laurent Boutonnat, signe le journaliste Jean-Luc Fartozen.
En fait, ce qu'il lui reproche, c'est exactement tout ce que nous on aime.
Mais ça montre aussi que c'était un vrai
tournant.
Exactement.
C'était nouveau.
Il y a 30 ans, le côté show américain, qui est vraiment plébiscité de nos jours, en fait, ça passait pas du tout. Voilà. Et l'Humanité souligne justement le manque de spontanéité qui prouve a priori que la chanteuse se fout vraiment de nous.
Ouais.
Mais l'Humanité nuance sa critique en soulignant le panache de la chanteuse et du spectacle.
Ah, quand même.
Vous allez voir, il y a quelque chose qui a vraiment pas changé en 30 ans. C'est la différence entre les journalistes parisiens et de province.
Ouais.
Parce que eux, les journalistes de province vont être quand même beaucoup plus cléments, pas tous, mais quand même globalement plus cléments avec le spectacle et avec la chanteuse. Ainsi, l'Est républicain titre « Royal Mylène Farmer ». La douce libertine a prouvé qu'elle était également faite pour la scène, écrit Jean-Paul Germonville, qui tient à préciser que le spectacle est aussi ponctué de moments d'émotion, comme le final « Je voudrais tant que tu comprennes », interprété pratiquement a cappella, de quoi faire taire ses derniers détracteurs, écrit-il.
Ah, super, hein.
Et si vous allez voir, ça continue. Un spectacle très au point pour le Dauphiné libéré, concert en envoûtant pour le Méridional, chorégraphie de perfection, costume hallucinant pour Nice Matin, ça déménage, titre l'écho du centre, à la fois émouvante et techniquement adroite pour Sud-Ouest, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout plaire aux journalistes. Hein ? Alors rien à voir avec le spectacle, mais plutôt avec la communication. Ouais. Beaucoup se plaignent dans leur colonne de ne pas avoir pu prendre de photos du concert.
Ah,
la Voix du Nord publie ainsi une caricature de Mylène Farmer se cachant sous la casquette du costume sans contrefaçon et s'écrit en légende à défaut d'avoir des photos. Le journal Lune...
Au moins, ils n'ont pas du voilà,
ouais. C'est drôle.
Le journal L'Union, quant à lui, pointe le coupable, Thierry Suc, qui n'en est pas à son premier coup d'essai et qui a réservé les droits à une agence nationale.
Thierry Suc, le producteur
de la tournée.
Aucun photographe de presse n'est accrédité sur la tournée, ça passe pas du tout. Il y a un dossier de presse qui est envoyé avec deux diapositives, qui sont même pas des diapositives. À l'époque, on parle de diapositives.
Oui, bien sûr. Ouais.
Qui sont même pas des photos du spectacle. C'est un portrait et une photo qui est une variante de celle de l'affiche, donc qui vont être produites dans tous les journaux de province. La conséquence de ça, c'est que du coup, il y a des journaux qui vont vraiment le prendre un petit peu personnellement et ça va les pousser à publier des critiques vraiment négatives. On se souvient par exemple du journal suisse Le Matin qui avait fait une critique du spectacle. Le titre de l'article, c'était « Un plat pour rien ». Je crois que celui-ci, pour les fans de l'époque, il est encore très très en mémoire, cet article. On vous le mettra sur la page.
C'est quand même pas très fair-play de juger un spectacle juste pour la disponibilité l'accès d'un photographe.
Exactement. Hein. Et puis, je voudrais aussi revenir sur le passage de Mylène en Belgique.
À Bruxelles, à Forêt Nationale.
Ah, c'est oui, ça, à Bruxelles. Où elle va rencontrer sur place deux journalistes locaux qui vont demander à Mylène de se justifier sur ce choix-là.
Ah.
Et visiblement, la pilule n'est pas passée, puisque quand elle va sortir son album suivant, donc 2 ans plus tard, ils vont lui en reparler. Quand elle va sortir Anamorphosé, ils vont lui en reparler.
Oh là là,
et quand ils vont,
mais quelle rancune!
Et même quand elle sera à Bruxelles en 2009 pour finir le tour 2009, alors il n'y a pas d'interview, mais dans leur critique du spectacle, ils rappelleront que depuis 20 ans, elle interdit les photos, etc.
Parce que la pilule est vraiment pas passée. En l'occurrence, sa photographe qui est
Marianne Rosenstiel,
qui est donc la photographe attitrée de ce spectacle.
À l'époque, sa photographe exclusive.
On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de partout. Enfin, il n'y a plus vraiment la presse qui va prendre des photos des gros concerts de Beyoncé, etc.
Gros concerts, non, ça se fait plus.
Il y a les photos de poule avec sur les deux premiers titres.
Ça a trop changé parce que n'importe qui peut faire des photos maintenant.
Oui, voilà, il y a ça aussi. Vous l'aurez compris, Mylène Farmer ne va pas se mettre tous les journalistes dans la poche. Et quant aux critiques, voici ce qu'elle en disait sur France Inter en 89.
Maintenant, j'ai quand même un recul suffisant pour ne pas être trop égratignée par ça. Mais moi, j'ai en tout cas ce paradoxe, c'est de lire spécialement les papiers qui font mal. On les relit. Et on se demande s'il y a une vérité quelconque. Mais il y a des papiers qui sont tellement méchants que ça en devient drôle aussi.
Elle le prend plutôt bien.
Oui, voilà.
Ouais, y a une image qui est intéressante aussi, on n'a pas d'audio parce que c'est quelque chose qu'elle a dit dans la presse. On est en 89, donc c'est le bicentenaire de la Révolution, et elle va utiliser l'image de la guillotine. Elle dit que la presse lui pousse la tête sous la guillotine.
Et je vais reprendre deux termes, dont un témoignage de Michel, je crois, qui disait que c'était une ambiance sombre et bizarre. Et je pense que dans cette France de 89, dans la pop, on n'était pas du tout habitué à ça.
Ça a sûrement bousculé des...
Ça a bousculé, parce qu'on est encore dans, je veux dire, la variété de papa-maman, de Sardou, de Johnny, etc. Et elle apporte quelque chose de vraiment nouveau qui va totalement changer la donne.
Alors, pour terminer cette revue de presse, je voulais vous parler d'un fait divers terrible. Une histoire qui se passe dans la commune de Granges-les-Valences, dans l'Ardèche. Commune qui apprend dans une brève du Dauphiné Libéré, publiée le 12 septembre 89, la venue de la chanteuse Mylène Farmer qui se produira le 21 septembre prochain sur le parking du supermarché Mammouth.
Qu'est-ce que tu racontes?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Je vous jure, c'est un vrai
Mylène Farmer
authentique
sur le parking de Mammouth.
Faut dire que Mammouth, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est un supermarché comme Auchan,
voilà.
Oui, et vous l'aurez compris, donc elle se produirait sous un chapiteau.
Voilà, ouais,
c'est ça.
Ouais.
Donc l'article précise qu'on raconte dans le milieu artistique qu'il s'agit de l'un des plus beaux spectacles qui n'ait jamais été mis en place sur la route. Entendez par là, dépêchez-vous de prendre vos places. Mais on apprend finalement, dans une seconde brève, quelques jours plus tard, que le concert est finalement reporté au 6 novembre. Mais le journal précise, pas de panique, Mylène Farmer sera bel et bien à Granges-les-Valences. Donc ils l'attendent vraiment de pied ferme.
Ils l'attendent sur le parking.
Donc elle l'a fait son...
Attends.
Mais il s'en passe des
minutes
trucs.
Minute papillon.
Elle va bien venir, rassurez-vous. Mais en fait, pas le 6 novembre. Car le Dauphiné Libéré fait une troisième brève pour expliquer en fait que ça sera 2 jours plus tôt, le 4 novembre. Et cette fois-ci, il s'agit d'une date définitive. Voilà. C'est gravé dans le marbre, attention.
Mais alors, il fallait...
Et bah, attendez, tous les habitants de Granges-les-Valences se préparent, ils s'affairent, ils s'enthousiasment. d'enthousiasme.
Ils ont mis leur catogan.
Voilà, ils ont hâte de voir l'interprète de Libertine sur scène. Mais hélas, un quatrième article du Dauphiné Libéré vient tomber comme un couperet.
Ah non,
et va leur apprendre que le concert est définitivement annulé pour des raisons techniques et qu'il faut maintenant se rabattre sur les concerts lyonnais.
Ah, voilà. Donc, pas de Mylène Farmer sur le parking de Mamou.
Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que Mylène Farmer elle est occupée en juin, là. Mais on va s'organiser. On va appeler Thierry Suc et on va vous l'emmener, Mylène Farmer, à la rentrée à Grange les Valence.
Est-ce que le parking existe toujours?
Sûrement.
Voilà, il y a peut-être un carrefour.
On met Clément et Ludo à la sono.
Thibaut
s'occupe du chapiteau. Sylvain va animer la soirée. Moi, je suis l'ouvreuse. Et on va vous l'emmener. On va vous emmener, Mylène Farmer, à Grange les Valence. À la rentrée, c'est promis. Histoire
de... Clément, on voit qu'une tournée, c'est dur à monter. Je crois que tu as pas mal de choses à nous dire là-dessus.
Ouais, parce que 30 ans plus tard, on a l'impression que le Tour 89 a été un vrai succès. Mais en réalité, si on reprend le calendrier vraiment de l'organisation de la tournée, c'est très, très chaotique. Ah. On vient d'en parler. Donc, il y a les dates qui se sont faites sous des chapiteaux. Alors, pourquoi des chapiteaux? Parce qu'en fait, en province, il n'y a pas vraiment de structure pour accueillir des concerts comme c'est le cas aujourd'hui.
Il n'y a pas de salle de concert.
Voilà, par exemple, les Zéniths, en 89, il n'y en a que deux. Il y a Paris et Montpellier. Dans les grandes villes, il y a plutôt des palais des congrès, des parcs des expositions.
Ça fait cirque. Un peu, c'est marrant.
Ouais. Bah on imagine tout de suite le truc vraiment à l'artisanal.
Puis parce que c'est le seul moyen de transporter un concert aussi grand, quoi.
D'accueillir l'infrastructure et surtout d'accueillir le public.
Ouais.
Donc c'est le cas, par exemple, les chapiteaux. Elle va jouer sous des chapiteaux, par exemple à Annecy ou à Sanary. Et comme je vous le disais, donc l'organisation, elle est vraiment chaotique parce qu'au fur et à mesure de la tournée, c'est-à-dire alors que vraiment Mylène est sur la route, le calendrier, il change. Il y a des dates qui sont reportées, elles sont annulées ou même elles sont fusionnées. C'est-à-dire que, par exemple, on va annuler.
Comment ça fusionner?
On va annuler, par exemple, une date et on va dire les billets ils sont valables pour telle autre date dans une autre ville.
Si t'avais une place à Tourcoing, tu peux aller à Marseille.
Exactement.
Attends,
c'est
mais
ça.
Quelle galère.
Mais comment ils étaient informés de tout ça? Parce qu'il n'y avait pas internet.
Et je vais vous dire comment. Il y avait la presse locale. Et alors dans la presse locale, épluchée là, c'est super drôle à lire avec le recul. Parce que par exemple, quand une date est annulée, on demande au directeur de la salle de se justifier. Et puis la conséquence à laquelle on pense pas, nous, 30 ans plus tard, c'est il y a la rumeur. Parce que comme il y a des dates qui sont annulées, reportées, etc., on ne sait pas finalement si le concert il va avoir lieu. Donc il y a des démentis qui sont publiés dans la presse. C'est le cas par exemple dans Sud-Ouest. Sud-Ouest publie un démenti pour dire que non, le concert de Bordeaux n'est pas annulé et aura bien lieu. Et puis pour aider à remplir les salles qui ont un peu de mal à se remplir, il y a des concours qui sont organisés dans la presse locale. Et il y a même certains journaux, je pense par exemple à Ouest France, qui ne fait même pas de concours, qui publie un entrefilé pour dire venez, on vous distribue des places pour le concert.
Incroyable.
Bon, ce serait bien qu'ils le refassent maintenant.
Elle n'avait pas la réputation qu'elle a aujourd'hui.
Et je suis sûr que tu as quelques coulisses et quelques anecdotes à nous raconter.
Ouais, parce que si le spectacle, il est très très calé et vraiment honnêtement, les représentations se ressemblent beaucoup. Il y a très très peu de place à la spontanéité. On est aussi calé sur les programmations, donc ça laisse très très peu de place à l'improvisation. Mais il y a quand même des choses amusantes à noter. Par exemple, déjà quelque chose qui plaît au public, c'est que tous les soirs, Mylène, elle cite le nom de la ville dans laquelle elle se produit. Sur la reprise de Pourvu qu'elle soit douce,
ça c'est chouette.
Elle cite la ville.
Génial.
Et ça, ça plaît au public.
Et le public de Bordeaux.
Ouais.
Le public de Mammouth.
Dans le même état d'esprit, sur la présentation des danseurs sur Libertine, Mylène, elle finissait toujours par Sophie Tellier, donc sa danseuse,
La
présentant alors tantôt comme la rivale de Libertine, mais aussi parfois comme la sorcière de Tristana. Donc voilà, pour faire un petit peu le lien avec
oui,
les clips.
Ça,
c'est
même,
drôle.
Jouait, c'était, c'était la méchante récurrente dans les clips de Mylène.
Je voudrais aussi revenir tout à l'heure, toi Thibaut, t'as parlé du petit speech de Carole Frédéric sur Maman a tort.
Ouais.
Alors au fil des dates, il s'est étoffé, il a varié. Alors parfois, elle disait qu'elle devait punir Mylène parce qu'elle n'avait pas fini son assiette.
Ah, c'était pas le même à chaque fois?
C'était pas le même à chaque fois. Alors pareil, il était très cadré, mais il y avait des petites variantes. Donc une autre fois, ça va être parce qu'elle a pas rangé ses nounours. Et puis pour finir sur les deux Bercy, elle dit que c'est parce qu'elle a pas rangé son Bambi en peluche. Alors là, c'est pour faire le clin d'œil à la séquence dans Sacrée Soirée où Mylène recevait un Bambi en peluche. Et alors pourquoi je parle de clin d'œil? Pour parler des deux dernières dates à Bercy, vous savez que dans le spectacle, il y a une tradition qui est que pour la dernière, toute la troupe se fait des blagues pendant la représentation.
Oh. Et j'adore ça.
Et on le sait assez peu, mais ça a été le cas sur le Tour 89. Et donc le 8 décembre 89, la troupe se fait des petites farces. Par exemple, les danseuses, elles arrivent sur Tristana en étant à demi nues. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elles ont juste un châle qui leur recouvre le haut du corps, mais c'est tout. Et puis sur Libertine, c'est l'orgie totale. Les garçons, les filles inversent
leur rôle.
Voilà, et puis ils se font beurrer la praline, voilà.
Ah, tu dis ça comme ça, toi?
Ah, oui.
On peut dire ça comme ça. Toujours sur la dernière date, là, c'est plus une blague, mais c'est Sophie Tellier qui avait une envie, qui l'a proposée à Laurent Boutonnat, qui lui a dit « Vas-y pour la dernière ». Elle exécute une danse sur Alan.
Ah ouais,
elle est vêtue d'un grand châle qu'elle agite autour d'elle en tournoyant avec un effet de contre-jour. Donc pendant toute la chanson Alan, en fond de scène, il y a Sophie Tellier qui danse.
Ouais, qui danse un peu contemporain, comme
folie,
quoi.
Ouais, ouais, tournoyant.
Mais ça, c'est seulement tournoyant. Sur le dernier.
Uniquement sur la date du 8 décembre, la dernière.
Et elle a fini en apothéose à Paris, pour deux dates.
Et donc après la dernière représentation, toute la troupe se dirige vers l'école des Beaux-Arts pour célébrer la fin de la tournée, pour une réception organisée par Bertrand Lepage, donc Bertrand Lepage, le manager de Mylène à l'époque. Donc ça se tient dans la cour vitrée, il y a 500 invités. Ces invités, c'est des professionnels de la profession, des attachés de presse.
Des journalistes peut-être, non ?
Des journalistes.
Ouais, de maison de disques.
Et le point d'orgue de cette réception, ça doit être la remise à Mylène d'un disque de diamant pour l'album Ainsi sois-je. Alors Bertrand Lepage, qui a un goût prononcé pour la mise en scène, lui, il a imaginé quelque chose vraiment de pharaonique à l'image de la star qui est Mylène. Mmh. Mais malheureusement, dans le courant de la soirée, il est pris de court par Alain Lévy, qui est le directeur général de Polydor, qui remet le trophée lui-même à Mylène en petit comité. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on a une photo de ce moment précis qui avait été publiée par Instant Mag en 2003, une photo prise par Marianne Rosenstiel, où on voit effectivement un petit groupe perdu au milieu d'une énorme salle. Tous les convives ont leur attention tournée vers le buffet. Personne ne prête attention à ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, Bertrand Lepage, je reprends ses propres mots, il explose, il hurle et il fait tourner la soirée au cauchemar. Alors, ouais, Mylène essaye de le tempérer. Mais le malaise, il est installé. Les gens commencent à s'en aller, la soirée tourne court. Il y a même des témoins qui raconteront qu'ils ont vu Bertrand Lepage mettre un coup de pied dans une pile de chaises. Dans les jours qui suivent, Mylène, elle envoie un petit message d'apaisement à Bertrand Lepage, mais voilà, on sait tout ce qui est arrivé. Début 90, elle lui annonce qu'ils travailleront plus ensemble.
À la fin d'une époque, parce que Bertrand Lepage, il est là depuis Maman a tort. Hein. Il est là depuis les débuts, c'est celui aussi qui a aussi contribué largement au succès.
Ah, autant Boutonnat et elle, il a certainement...
C'était un trio.
Ouais, c'est un trio, complètement.
D'ailleurs, dans Secret de Star, elle dit, c'est un couple à trois.
Et puis après, c'est Thierry Suc qui est donc le producteur de la tournée, qui prend le management. Et là, je vous invite à réécouter...
Le podcast sur l'autre.
Le podcast sur l'autre, qui est donc la suite directe du Tour 89.
Histoire de MF.com, histoire avec un S. Quand on voit Mylène Farmer sur scène, généralement, ce qu'on attend après, c'est quoi?
Les supports.
Ah, l'album. Cassette audio.
Eh ouais, donc on va en parler tout de suite. Thibaut, on va parler avec toi du double album qui est sorti.
Ben oui, l'album live du Tour 89, sobrement intitulé Mylène Farmer en concert, est annoncé pour le 4 décembre 1989, la même semaine que les derniers concerts de la tournée qui ont lieu les 7 et 8 décembre au Palais Omnisports de Paris-Bercy. Ce double album, enregistré au mois d'octobre à Bruxelles, nous replonge totalement dans l'univers du concert avec en guise de pochette une photo de la même série que celle de l'affiche de la tournée. Ça vous dit une bonne archive bien vintage?
Ah ouais, ouais, ouais.
C'est quoi?
Il s'agit de la pub radio qui passait à l'époque et qui illustre parfaitement l'ambiance et l'univers de ce Tour 89.
La nuit au monde.
En cassette, double compact disque.
Double durée.
Alors pour parler chiffres, en concert est resté classé un mois parmi les 10 meilleures ventes d'albums au début de l'année 90. Il s'est écoulé à près de 320 000 exemplaires. Deux singles en sont extraits. Le premier, c'est Alan, qui sort parallèlement à l'album. Une chanson présente à l'origine sur l'album Ainsi sois-je. Et puis en avril 1990, Mylène donne une nouvelle chance au titre Plus grandir, qui avait déjà été exploité en version studio 4 ans et demi auparavant, et qui était passé un peu inaperçu à l'époque.
Ah oui. Alan, un super moment en live, on ne s'est pas arrêté dessus, mais avec Carole Frédérix qui
une pré-intro.
Ah, l'intro est formidable.
Mais qui belle aussi, ouais, aussi tous les deux. Ouais, c'est vraiment les deux qui se répondent.
Aucun de nous cinq n'a vécu ce concert. Donc c'est vrai que nous, ce concert, on le connaît via cet album-là. Ouais. Hein. C'est une vraie réussite au niveau du son, au niveau de l'enregistrement.
Il est très fidèle en plus aux représentations.
Et ce qui est incroyable pour l'année, c'est qu'il est super bien capté. Il y a des lives qui sortent maintenant qui sont pas aussi bien captés que ça. Et c'est encore merci à Thierry Rogen qui a capté le
dont
son.
On a beaucoup parlé sur l'épisode de l'autre.
Le mixage, il est super bon.
Ils l'ont
c'est
fait
vraiment
très rapidement.
Ouais,
en un peu plus d'un mois.
En un mois et demi.
Et en plus, voilà, en parallèle de la tournée.
Fin octobre, sorti en début décembre.
Il y a l'album CD, mais il y a aussi, bien sûr, la VHS.
Bah oui, le film du concert. Ah ouais. D'abord annoncé pour le mois de mars, la VHS Live, intitulée En concert, le film, sort finalement le 5 novembre 1991, presque un an après l'album live. La précision, le film indiqué par un bandeau rouge sur la jaquette a toute son importance, hein, car le film a été capté avec des moyens dignes d'un long métrage. Le tournage a eu lieu à Bruxelles, à Forêt Nationale, c'est ça Clément ?
Bah, Laurent Boutonnat, il ne se contente pas d'une simple captation, il va vraiment utiliser des méthodes cinématographiques pour réaliser le film du concert. Il se paye le luxe d'organiser une représentation à vide. Alors qu'est-ce que j'entends par à vide ? Bah, c'est-à-dire que l'après-midi du 22 octobre, alors que Mylène joue le soir en public, il donne une représentation dans la salle vide, sans aucun public, ce qui leur permet de faire des placements de caméra, notamment de placer une luma en plein milieu de la fosse. Une luma, vous savez, c'est ce grand bras articulé qui permet de faire des prises de vue en hauteur.
Balayer vraiment toute la scène.
Voilà, il y a un caméraman qui peut suivre Mylène sur scène.
Et donc, il jouait le spectacle en live. Hein. Enfin,
il joue le spectacle en
vraiment
live.
Vraiment en condition du.
C'est-à-dire que c'est comme
quoi.
Un filage, costume, lumière, tout. C'est comme le dernier filage avant de faire une première.
Voilà, alors, c'est filmé.
Entre exactement. Les chansons, les pauses sont un peu plus longues parce qu'ils prennent le temps de changer de place. Le matériel, etc.
De régler leur caméra. On dit le film, on dit c'est du cinéma, mais aussi parce que ce sera pas capté en vidéo, mais ce sera capté en pellicule. Et ça, c'est infiniment rare dans l'industrie musicale de capter un concert, voire même des clips en pellicule. Ouais. Et ça ajoute une beauté, un grain à tout ce film qui est en concert.
Ouais, donc cette méthode, je dirais même ce luxe, permet vraiment à Boutonnat d'obtenir le résultat vraiment qu'il a en tête. Et cette fameuse captation mystère, etc., voilà, elle a été longtemps auréolée un peu d'une légende.
Ça fait parler, oui.
Ça a fait parler, mais moi, je voudrais rappeler quelque chose que j'ai redécouvert en épluchant la presse pour préparer l'épisode. Dans une interview dans la presse jeune en décembre 1989, Bertrand Lepage dit lui-même « Laurent Boutonnat a tourné le film dans une salle vide quand on était à Bruxelles parce qu'il voulait obtenir des plans très précis pour son film. » Il en a fait lui-même un outil de promotion en réalité, ça n'a pas du tout été caché.
Et on peut dire que c'est absolument pas scandaleux de filmer sans public, c'est juste professionnel et c'est de la sécurité aussi.
Ce qui compte c'est le résultat. Et
exactement.
Voilà. Il n'existe qu'en VHS et laserdisc.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est très compliqué, moi personnellement je n'ai jamais vu ce spectacle sur une télévision quoi, parce que je n'avais pas les supports et c'est vraiment important pour... Le public de Mylène Farmer, c'est un public qui se renouvelle depuis 30 ans et il y a des tas de gens qui n'ont pas vécu
exactement.
Ce concert et qui aimeraient vraiment le découvrir dans des qualités optimales. On a eu des petites breaking news ces derniers jours.
Qu'est-ce qui se passe ?
25 avril, on apprend qu'un Blu-ray et un DVD de En Concert va enfin sortir 30 ans après. Il sera disponible le 31 mai et on nous promet une image et un son restaurés.
Ah ouais. Génial,
on attend de voir le résultat.
Ça va être super.
On va passer à la conclusion du podcast.
Je vais quitter ce soir.
Ah mais c'est fini.
Oui, on va pas tarder à se quitter justement. Mais ouais. Je vais pas vous laisser quand même partir comme ça. On va faire un traditionnel tour de table avec vos impressions sur la tournée. On va commencer par Clément.
Ouais, ben moi mes impressions. D'abord, ça va être un regret d'avoir été trop jeune à l'époque pour prendre la mesure de ce que c'était. Moi, je garde quand même des souvenirs parce qu'on voyait des images à la télé, notamment avec le clip live, et surtout voilà, avec 30 ans de recul, un mot qu'on a beaucoup employé, vraiment une grande cohérence, où c'était vraiment une sorte d'aboutissement après tous les clips qui avaient été faits. Et moi, je suis vachement admiratif de ça.
Et tu mettrais quelle note?
Moi, je mettrais 8 sur 10 au spectacle.
On enchaîne avec Thibaut.
Si je dois retenir qu'un mot pour qualifier ce spectacle, ce sera l'audace, parce qu'il y a tout dans ce qui a été proposé dans l'époque, dans cette France de la fin des années 80.
Hein. Ouais.
Juste un petit bémol, c'est l'absence de DVD, de support vidéo actuel.
Pendant trop longtemps. Ouais.
Voilà, pendant trop longtemps, qui n'a pas permis à ce spectacle d'avoir, j'allais dire, la légitimité qu'il mérite dans le cœur des fans.
Hein. Et la visibilité aussi.
La visibilité surtout, ouais. Voilà. Donc ce sera corrigé dès le 31 mai, hein, comme on l'a dit. Hein. Mais du coup, donc, si je dois donner une note, je vais mettre, comme Clément, je vais mettre 8 sur 10.
Et Bastien, c'est à ton tour.
Bah, je vais commencer par la note, parce que je vous suis tout à fait, c'est 8 pour moi aussi. On vient de l'expliquer pendant une heure, c'est dingue ce qu'ils ont fait à eux deux.
Oui,
je rappelle
oui.
qu'ils ont 28 ans.
Bah ouais,
c'est super jeune. Oui, c'est fou.
C'est incroyable.
Juste fou ce qu'ils ont accompli à deux, enfin à trois. Et avec moi, je page. Suis hyper admiratif de ça. Qu'est-ce qu'on retient 30 ans plus tard de Mylène Farmer ? Que c'est une performeuse sur scène. Et voilà, et ça a commencé il y a 30 ans avec ce spectacle. Je voulais juste dire qu'il y a un moment du spectacle qui est pourvu qu'elle soit douce. Et moi, je trouve ça dingue et j'adore. Donc voilà, on s'est pas arrêté dessus parce que, comme on vous le dit, on doit choisir des moments.
On fait des choix.
Et voilà, mais voilà, c'est un super moment également pourvu qu'elle soit douce. En plus, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est un kiff total à écouter. Ce concert, vraiment. Donc moi, j'ai vraiment hâte d'être le 31 mai pour pouvoir regarder ce concert dans des qualités optimales.
Et toi, Ludo ?
Bah, et moi, je suis absolument admiratif des choix qui ont été faits à l'époque, parce que je trouve que c'est vraiment à l'avant-garde. Il n'y a pas eu de DVD à l'époque où j'ai découvert le concert, donc je trouvais qu'il avait un petit côté rétro. Mais le fond du spectacle, bah, il est intemporel. Il y a des tas de spectacles actuels qui ne sont pas aussi modernes, par son écriture, par ses idées, par sa mise en scène. Ça reste absolument flamboyant, quoi. Et puis bah, voilà, j'ai hâte de le voir en Blu-ray, vraiment.
Tu mets quelle note ?
Je mets un 9 sur 10.
Wow.
Parce que franchement, c'est...
Bah, c'est comme tu l'as dit, flamboyant. Excellent mot.
À toi, Sylvain.
Moi, je vais vous dire ma note juste après. Pour moi, c'est... je retiens quelques mots. J'avais noté aussi l'audace, l'audace du duo. Je trouve que ils ont tout... pour moi, ils ont tout déchiré. Il y a ce qu'il faut d'émotion, ce qu'il faut de mise en scène. C'est parfait du début à la fin. C'est sa première scène. Enfin, je ne sais pas si on imagine ce que c'est. Ça rejoint ce que tu disais, il y a 28
c'est
ans.
C'est hyper important.
C'est incroyable.
La première fois reste la première fois.
Tout pouvait s'arrêter avec ça. Hein.
Et plus jamais, même elle. Et pour le coup, moi, même plus jamais je ressentirai ça non plus, parce que je me mets à sa place et je me dis que jamais elle ressentira ce qu'elle a vécu à Saint-Etienne le 11 mai. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Il y a du tube, on en a parlé, hein, il n'y a que ça dans cet
mais
album.
Il manque
en
juste
fait.
Désenchanté.
Il manque désenchanté. Il manque
mais
désenchanté.
Bon, on ne va pas faire d'anachronisme.
Et je vais vous donner ma note. Hein, du coup, là, c'est peut-être la seule fois où je vais faire ça, c'est 9,5 sur 10.
Waouh wow.
Oh, bah, quel plébiscite
bah, ouais.
C'était Histoire de Tour 89, épisode 3, La Révélation Scénique. Une émission conçue par Bastien, Clément, Ludo, Thibaut et moi-même est réalisé par Ludo. Vous pouvez nous retrouver sur histoire2mf.com avec les références, les infos et tous les autres épisodes. Vous pouvez aussi vous abonner sur les plateformes de podcast. Salut.
Merci, à bientôt.
Histoire de.